Qu'est-ce qu'un match nul historique face à l'équipe de foot du Brésil, l'envolée du prix d'une simple tomate sur un marché à Casablanca et une affaire de meurtre impliquant une application de VTC ont en commun?
Bah, disons qu'au premier abord, absolument rien.
Ouais, on est d'accord. On dirait vraiment des événements tirés au hasard de l'actualité. Mais en se plongeant dans notre exploration approfondie d'aujourd'hui, qui est basée sur une série de dossiers du magazine LOG iWeek, le numéro 131 de ce mois de juin 2026, il y a une vraie obsession qui se dessine.
Complètement. Une obsession et même une peur viscérale de perdre le contrôle.
C'est ça.
Et surtout, la quête désespérée pour le reprendre. C'est vraiment une clé de lecture indispensable pour comprendre notre époque. Quand l'environnement global devient totalement imprévisible, chaque nation, chaque institution tente de verrouiller ce qui peut l'être.
Ouais, la souveraineté n'est plus du tout un concept abstrait qu'on débat à l'ONU, quoi.
Mais exactement. Elle se décline sur le terrain de sport, dans les rayons des supermarchés et même dans la gestion des trottoirs de nos villes.
Et c'est exactement le fil rouge de notre analyse d'aujourd'hui. On voit vraiment des hiérarchies historiques qui volent en éclats. Enfin, je veux dire, commençons par ce qui s'est passé entre le 15 et le 26 juin, lors de cette fameuse Coupe du Monde 2026.
Ah, le match Maroc-Brésil.
Ouais, le Maroc a affronté le Brésil, on parle quand même des quintuples champions du monde. Et le résultat? Un match nul, un partout.
Ce qui est déjà énorme.
C'est énorme, oui. Mais au final, ce n'est même pas le score qui choque, c'est la physionomie du match. Le Maroc est désormais 7e au classement FIFA en ce début juin, et l'équipe n'a pas du tout joué le rôle du petit pousset qui reste recroquevillé dans sa surface.
Non, ça à l'époque où certaines équipes entraient sur le terrain en demandant presque la permission d'exister face aux géants sud-américains ou européens, c'est complètement révolu.
C'est clair.
Le complexe d'infériorité a disparu, il a été remplacé par une maîtrise tactique, froide et super calculée. D'ailleurs, le but d'Ismaël Saïbari sur une passe de Brahim Diaz montre bien cette fluidité, avant que Vinicius n'égalise bien sûr.
Ouais, et le symbole absolu de cette froideur, analysons cela de plus près, c'est Ayoub Bouadi. Il a 18 ans. 18 ans!
C'est fou!
Pour quiconque analyse le football, ces statistiques donnent littéralement le vertige. J'ai les chiffres ici. Face au milieu de terrain brésilien, il a réussi 60 passes sur 66.
Ce qui fait un taux de
91% de précision.
Sacrèble.
Et pire encore pour l'adversaire, il fait du 16 sur 16 dans le dernier tiers du terrain.
Impressionnant.
Ouais. Il a récupéré 6 ballons, intercepté 5 passes et gagné 9 duels. Enfin, concrètement, un gamin de 18 ans a juste confisqué le ballon au Brésil.
Il a joué comme un grand maître d'échecs au milieu d'un plateau complètement chaotique, en fait.
Exactement mon analogie.
Ouais.
Sans aucun complexe. Et ce n'est pas un hasard si Radio Marca s'enflamme en Espagne et le verrait bien signé au Real Madrid.
Bah, ces statistiques nous montrent une chose cruciale. La domination ne s'hérite plus aujourd'hui, elle s'arrache par la compétence technique. Bouragnetti n'a pas du tout été impressionné par le maillot jaune mythique en face de lui, parce qu'il sait que sa propre formation, son propre système, est tout aussi performant.
C'est ça.
Et cette dynamique de remise en cause frontale des hiérarchies, bah, on la retrouve de manière identique si on quitte le stade pour regarder l'échiquier technologique mondial.
Ah oui, la transition est parfaite, parce que les acteurs émergents refusent de rester à leur place là aussi, ce qui nous amène directement à cette espèce de guerre froide technologique qui ne dit pas son nom.
Tout à fait. Les sources de l'EDGOI rapportent que les États-Unis viennent de placer 3 énormes mastodontes chinois sur liste noire. On parle d'Alibaba pour le cloud.
Ouais. De Baidu pour l'intelligence artificielle et de BYD pour tout ce qui est voitures électriques et batteries. L'argument de Washington, c'est de contrer la stratégie chinoise de, je cite, « fusion civilo-militaire ».
Alors, ce qui est fascinant ici, c'est qu'il faut bien comprendre ce terme de « fusion civilo-militaire ». Derrière le jargon, l'idée est assez simple. Dans la doctrine chinoise actuelle, il n'y a plus vraiment de frontières étanches entre une innovation commerciale et une application militaire.
C'est-à-dire ?
Bah, par exemple, une batterie ultra-performante développée par BYD pour une petite citadine électrique, elle peut tout à fait servir à alimenter un essaim de drones militaires.
Ah oui, je vois.
Pareil pour l'IA. L'intelligence artificielle, le Baidu, qui optimise ton moteur de recherche, le moteur de recherche de quiconque l'utilise, peut être utilisé pour de la reconnaissance satellite. Donc, Washington considère que chaque puce vendue à ses entreprises civiles est une potentielle munition offerte à l'armée chinoise.
Ouais, c'est une guerre froide à visage découvert. L'automobile électrique n'est plus du tout un simple marché. C'est devenu un enjeu de souveraineté nationale de premier plan. Mais soyons réalistes une seconde sur l'efficacité de ces sanctions.
Vas-y.
Est-ce que le fait de mettre des entreprises de cette taille sur liste noire, ça freine vraiment leur ascension ou est-ce que ça les force juste à devenir complètement indépendante de la technologie occidentale.
Bah, c'est tout le paradoxe de la sanction, en fait. En voulant asphyxier un adversaire technologique, on le contraint souvent à l'autonomie totale. Pékin dénonce d'ailleurs une politisation de l'économie, tu vois.
Ouais, il voit ça comme du protectionnisme.
Exactement. Il considère ces listes noires, non pas comme une mesure de sécurité nationale américaine, mais comme un protectionnisme déguisé pour sauver une industrie automobile ou informatique occidentale vieillissante.
Ce qui s'entend, selon le point de vue.
Voilà. Et peu importe qui a tort ou raison dans cette rhétorique, hein, nous restons neutres là-dessus, le fait est que la technologie n'est plus un marché mondialisé fluide. C'est le premier rempart de la souveraineté.
Et dans ce monde où les superpuissances s'affrontent à coups de semi-conducteurs, de listes noires et de blocus, on remarque que la stabilité devient l'atout le plus précieux. L'actualité nous le rappelle assez violemment d'ailleurs.
Oui, l'instabilité mondiale est palpable.
Absolument. Les dossiers du magazine mentionnent notamment les récentes frappes israéliennes du 8 juin contre des installations militaires en Iran. Ça montre bien à quel point le climat géopolitique est une vraie poudrière. Et dans ce contexte, se positionner comme un havre de paix, c'est vital pour un pays.
C'est même l'avantage comparatif absolu aujourd'hui. Le capital, les investisseurs et même les grands événements sportifs fuient l'incertitude. Un État qui ne peut pas garantir la sécurité et la paix civile est automatiquement déclassé dans la nouvelle économie mondiale.
Et c'est exactement ce qui rend le dernier classement de US News & World Report pour 2026 si pertinent à analyser.
Tout à fait.
Le Maroc y figure à la 33e place mondiale en matière de paix et de stabilité politique, ce qui en fait le premier pays africain avec quand même une avance super confortable sur les Seychelles qui sont 40e ou l'Afrique du Sud à la 48e place.
Et on voit bien comment l'appareil d'État muscle sa structure pour maintenir ce statut. Les sources s'attardent par exemple sur une cérémonie militaire très symbolique à Kénitra.
Ah oui, au CREM, c'est ça ? Le Collège Royal de l'Enseignement Militaire Supérieur ?
C'est ça. Le prince héritier Moulay El Hassan y a présidé la sortie de la 26e promotion du cours supérieur de défense et la 60e du cours état-major. On parle de 304 lauréats.
Ah ouais, c'est énorme.
Oui. Et le point crucial, c'est qu'il y a près d'une centaine d'officiers, 88 pour être exact, qui viennent de 32 pays différents. Former l'élite militaire de dizaines de nations partenaires, c'est projeter de l'influence, bien sûr, mais c'est surtout démontrer une sacrée solidité institutionnelle.
C'est clair.
Ce n'est pas juste une remise de diplôme, c'est vraiment l'affirmation d'un État qui fonctionne et qui s'inscrit dans le temps long.
Ouais, et cette capacité de gestion hyper rigoureuse se voit aussi du côté de la logistique civile. Toujours dans la même période, le 10 juin, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a lancé l'opération Maraba 2026.
L'une des plus grandes opérations de transit au monde.
Exactement. On parle de la mobilisation de 26 espaces d'accueil, dont 20 rien qu'au Maroc, pour gérer le retour estival de millions de membres de la diaspora. Ça passe par des hubs immenses comme Tanger Med, les aéroports, et ça dure jusqu'au 15 septembre. C'est un flux humain massif.
Monumental, oui.
Mais là, je vais faire un peu l'avocat du diable.
Vas-y.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Est-ce que brandir cette médaille du 33e pays le plus stable au monde ou montrer cette démonstration logistique incroyable, ça résonne réellement pour le citoyen dans la rue ? Ou est-ce que c'est juste une belle plaquette sur papier glacé pour les investisseurs étrangers ?
C'est une excellente question et en fait, la corrélation est hyper directe, même si elle n'est pas forcément immédiate à percevoir pour le grand public.
Comment ça ?
Gérer une opération colossale comme Maraba sans accroc majeur ou former des hauts gradés internationaux, ça nécessite une synchronisation parfaite entre plein de services. La douane, la gendarmerie, les autorités portuaires, le système de santé.
Ouais, c'est un vrai test grandeur nature. Hein.
C'est exactement ça. Un test de stress de l'appareil d'État. Et pour un investisseur étranger, ou même pour la FIFA dans l'optique du Mondial 2030 qui sera co-organisé avec l'Espagne et le Portugal.
Ah oui, l'enjeu est colossal.
Cette capacité institutionnelle à absorber des flux massifs et à maintenir l'ordre, bah c'est la garantie fondamentale avant d'injecter des milliards dans des infrastructures. Et au final, tout ça, ça ruisselle forcément sur la vie économique locale.
Je vois. Sauf que, quand on bascule sur l'économie du quotidien, justement, le vernis de cette belle macro-stabilité craque un peu face à la réalité des prix.
Oui, l'inflation est là.
C'est ça. D'un côté, on a des chiffres presque triomphants. Le Haut Commissariat au Plan annonce une croissance économique de 4,9% pour 2025. C'est mieux que les 4,4% de 2024.
C'est solide.
très solide. On voit même des succès internationaux fulgurants, comme cette start-up casablancaise, Aura Technologies, qui a remporté la Coupe du monde des start-up à San Francisco.
Ce qui montre une vraie capacité à innover et à s'exporter, indéniablement.
Mais de l'autre côté, le quotidien reste super difficile à cause des prix de l'alimentation. Et c'est là que l'État cherche justement à traduire cette macro-stabilité dans le panier de course des gens. Le ministre Nizar Baraka lance une véritable guerre contre la spéculation. Et en lisant les chiffres chocs du Conseil de la concurrence dans l'ODGI Week, on comprend pourquoi.
Les données sont accablantes, on est bien d'accord.
C'est effarant. Les intermédiaires captent en moyenne 34% de la valeur du produit. Ça monte parfois jusqu'à 50%.
Oui, la moitié du prix.
Et le pire, c'est que 35% des produits agricoles évitent totalement les marchés de gros. C'est une pure rente de situation. Enfin, analysons ça une seconde. C'est vraiment là que ça devient fascinant.
Je t'écoute.
Ce système de distribution actuel, c'est comme un péage autoroutier sauvage.
C'est une bonne image.
Ouais, imagine. Un produit part du champ à un prix dérisoire, l'agriculteur a fait tout le boulot, il a assumé tous les risques liés au climat, à la sécheresse. Mais avant d'arriver sur l'étalage, le produit passe entre les mains de 3 ou 4 intermédiaires qui se servent tous au passage.
Sans rien faire en plus.
Rien. Sans transformer le produit, sans le conserver, sans lui ajouter la moindre valeur. Et tout le monde se sert. Au final, le consommateur paie le prix fort.
Ce parasitisme, il prospère dans l'opacité totale. Quand 35% de l'approvisionnement contourne les marchés officiels, l'État est juste aveugle. Il ne peut pas vérifier l'hygiène ni équilibrer l'offre et la demande.
C'est une faille de la souveraineté alimentaire, clairement.
Exactement. Et la solution proposée, détaillée dans nos sources, c'est le retour de l'État régulateur. On parle de la création d'entreprises nationales ou régionales de distribution et de la création d'un observatoire national des marges.
Il y a aussi le plan eau qui est mentionné, non ?
Oui, le plan eau, avec des objectifs très clairs. Atteindra 80% des besoins en irrigation par des ressources non conventionnelles, comme le dessalement et les barrages. Et surtout, imposer des quotas pour approvisionner le marché local en priorité avant même de penser à l'export.
Bon, alors je pose la question qui fâche. Créer des entreprises d'État pour vendre des légumes, est-ce que c'est un retour en arrière vers une économie planifiée ou c'est juste une urgence absolue ?
C'est là qu'il faut un peu de pensée critique et décortiquer la doctrine. Il ne s'agit pas du tout pour l'État de fixer les prix de manière autoritaire à la soviétique, tu vois ?
D'accord.
L'idée, c'est plutôt de jouer le rôle d'un, je cite, acheteur de référence. En gros, l'État crée un acteur économique massif qui achète directement aux producteurs et vend aux détaillants de manière transparente. Ça brise automatiquement les monopoles de l'ombre.
Ah, parce que les intermédiaires sont obligés de s'aligner s'ils veulent survivre.
Exactement. C'est une régulation par la force du marché, pas par décret. L'État reprend le contrôle du marché de gros.
Et d'ailleurs, on voit bien que cette volonté de l'État de remettre de l'ordre, elle ne s'arrête pas au marché de gros. Elle s'étend aussi à la sécurité urbaine et aux questions de société. La régulation descend littéralement dans la rue.
Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est tout à fait logique. L'espace public, c'est le premier endroit où la perte de contrôle se ressent.
Et ça commence avec des débats de société qui ont l'air mineurs, mais qui sont ultra complexes. Le projet de loi 19.25, par exemple. C'est une législation d'urgence pour encadrer les animaux errants, les chiens, les chats.
Un vrai casse-tête pour les communes.
Mais grave. On est face à un dilemme entre, d'un côté, la santé publique et la sécurité urbaine, notamment avec les morsures, et de l'autre, la compassion animale croissante de la société. Et là encore, l'État doit trancher et imposer un cadre.
Et parfois, la rue impose des défis bien plus sombres.
Ouais, là, on bascule sur un vrai fait divers digne d'un polar hollywoodien. L'affaire criminelle Yassine Indrive.
Une affaire terrible.
Terrible, oui. Pour ceux de notre audience qui n'ont pas suivi, c'est l'histoire d'un chauffeur de 22 ans qui a été enlevé et dont le corps a été retrouvé brûlé. L'enquête a mis en cause 9 suspects. 6 sont incarcérés, 3 en liberté provisoire.
Un réseau très organisé.
Et c'est ça le pire. Le cerveau de cette opération serait un militaire. Et il était aidé de sa maîtresse, une infirmière, qui a servi d'appât. Ils utilisaient l'application VTC InDrive pour commander des courses et attirer les chauffeurs. C'est une affaire super complexe, de vol qualifié et de constitution de bande criminelle.
Ça illustre parfaitement le côté obscur de l'innovation technologique. Une application fluidifie la mobilité, mais elle crée aussi des brèches sécuritaires. Le criminel moderne commande sa victime sur son smartphone. Et face à ça, les institutions tentent désespérément de légiférer sur l'imprévisible, de chercher à imposer un cadre rassurant face à une forme d'anarchie urbaine.
C'est fou quand on y pense. D'un côté, on légifère sur les chats de gouttière, De l'autre, on démantèle un réseau criminel ultra sophistiqué via une appli VTC.
Et cette régulation ne s'arrête même pas aux frontières nationales. Si on regarde ce qui se passe pour la diaspora, en Europe...
Ah, la fameuse loi belge.
Oui, la Belgique durcit sévèrement les règles du regroupement familial avec la loi du 18 juillet 2025.
Ce qui est un coup très dur pour la diaspora marocaine là-bas. Les sources expliquent qu'après l'indexation prévue en avril 2026, il faudra désormais justifier d'un revenu net de 2408,79 € par mois.
C'est extrêmement précis.
Ouais, ça correspond à 110% du revenu minimum et en plus, il faut rajouter 10% par personne à charge. C'est énorme pour un travailleur moyen.
Mais là encore, si on relie cela à la vue d'ensemble, c'est un système institutionnel, ici l'État belge, qui cherche à imposer un cadre rassurant pour sa propre population face à l'anarchie migratoire perçue. On utilise l'outil financier et bureaucratique pour reprendre le contrôle de ses frontières.
Tout est lié en fait, c'est dingue. Si on devait faire une petite synthèse de toute cette immersion dans les dossiers de l'ODG-IOIC, on dirait quoi ?
Je dirais que la souveraineté, en 2026, elle se gagne sur absolument tous les fronts en même temps.
Ouais, c'est pas juste des traités signés dans des beaux bureaux.
Non, c'est un gamin de 18 ans qui s'impose techniquement face au Grand Brésil. C'est un État qui décide de se dresser frontalement face aux spéculateurs de la tomate pour nourrir sa population. Ce sont des superpuissances qui s'affrontent à coups de puces électroniques. Tout, absolument tout, se résume à une quête acharnée de contrôle dans un monde en plein bouleversement.
C'est super bien résumé. Mais ça m'amène quand même à une dernière réflexion qu'on peut laisser à quiconque nous écoute.
Je sens la provocation arriver.
Toujours. Si l'État intervient pour absolument tout réguler, des prix de l'alimentation aux technologies de pointe, en passant par le moindre petit aspect de l'espace public urbain ou les flux migratoires, on peut se demander où commence et où s'arrête l'initiative individuelle.
C'est la vraie question.
Est-ce que cette hyper-régulation, qui est certes très sécurisante sur le papier, ne risque pas, au fond, d'étouffer la liberté organique ? Celle-là même qui a justement permis à des start-up géniales comme Aura Technologies de naître, ou à des talents hyper-sauvages du football d'éclore sans que personne ne l'ait jamais planifié dans un sombre bureau ministériel ?
L'ordre contre le génie du chaos, en quelque sorte ?
Exactement. C'est une réflexion qu'on laisse en suspens pour clôturer cette analyse. À méditer.